l'espace de...
Bonjour.
Je me souviens que Jean-Michel Jarre, on est la radio suisse.
Oui, alors ascenseur au fond à droite, troisième étage.
D'accord.
Merci. Merci.
La conversation.
Bonjour, Jean-Michel.
Bonjour madame.
Allez-y, en fait.
Bonjour madame Alexis. Okay.
Allez-y, monsieur.
Merci. Merci.
La conversation. Bertrand Pichot.
Bertrand Pichot.
Alexandre Lemierre.
Alexandre Lemierre.
Je pense qu'une conversation réussie tient de plusieurs éléments, d'être à l'écoute de l'autre, de s'attendre à tout, c'est-à-dire d'avoir la curiosité en éveil et de chercher l'inattendu chez l'autre aussi.
Une fois engagé, la musique vous guide au moins autant que vous la guidez. Étrange fusion entre le créateur, sa création et ses instruments. Ensemble, on avance à tâtons, dialogue obsessionnel, questionnement sans fin. Je n'en dormais plus, c'est une jouissance et une exploration. C'est ainsi que Jean-Michel Jarre décrit son lien passionnel à la musique, lui qui depuis plus d'un demi-siècle joue à jouer avec des notes, des harmonies, des rythmes, des sonorités. Les modifiant, les valorisant, les interrogeant, les transgressant, les améliorant, les magnifiant, les bouleversant, mais surtout les aimant, tout autant isolément que globalement. C'est très certainement avec son album Oxygène que vous l'avez pour la première fois entendu, que vous avez découvert son monde, y compris visuel, avec cette inoubliable pochette signée Michel Granger montrant la planète Terre comme écorchée, un globe à l'intérieur duquel une tête de mort émergeait. Une planète qu'il a explorée maintes fois, une planète qu'il a, pourrait-on dire, sonorisée ponctuellement, organisant des concerts grandioses dans les lieux les plus prestigieux qu'elle abrite. À Paris, Hong Kong, Houston, Londres, Pékin, Okinawa, Moscou, des centaines de milliers, parfois même des millions de terriens se sont ainsi regroupés dans une sorte de communion onirique et éphémère pour écouter sa musique, pour la regarder aussi et surtout la partager ensemble pour mieux la ressentir, la vivre, vivre la musique. Voilà une expression qui lui va bien, lui qui semble en avoir autant besoin que de l'air qu'il respire. Une musique qui l'a fait grandir, tout autant qu'il l'a de son côté fait évoluer, qu'il a participé à l'émanciper, à lui donner une nouvelle parole, un vocabulaire plus spontané ou plus élaboré. Expérimentateur, novateur, créateur, Jean-Michel Jarre compose et réalise des musiques qui font voyager l'auditeur dans l'espace et dans le temps, le transportant, le transcendant dans une universalité flirtant par moments avec sa nature divine. Lui que sa grand-tante surnommait Petit Diable, qu'un jour des techniciens russes surnommèrent Napoléon, est un bâtisseur de cathédrales, c'est en tout cas la prémonition d'un astrologue qu'il a un jour rencontré. Lui dont un astéroïde, le 4422, porte désormais son nom, nous propose aujourd'hui pour sa toute première interview à l'occasion de son autobiographie mélancolique Rodéo, sortie chez Robert Laffont, une conversation exceptionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conversation avec aujourd'hui Jean-Michel Jarre, bonjour.
Alors, conversation exceptionnelle, je sais pas, ça c'est les auditeurs qui en jugeront.
Alors,
à
l'issue
de notre entretien.
Dans sa forme, parce qu'habituellement c'est une émission d'une heure, et là, après avoir lu votre livre, on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à se dire que ça justifiait au moins deux émissions. Donc c'est en ce sens au moins qu'elle va être exceptionnelle dans son format. Aujourd'hui, c'est la première partie, la semaine prochaine, ce sera la seconde. Et d'ailleurs, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour
Je me réjouis beaucoup à cette idée.
Dispositif un peu particulier. Vous nous accueillez chez vous, à Paris, dans un appartement dans lequel vous êtes depuis longtemps.
Oui, ça doit faire maintenant une vingtaine d'années. Je vivais à l'extérieur de Paris pendant des années où j'avais mon studio et où les enfants ont grandi. Et puis quand les enfants ont pris leur vol, moi finalement je suis revenu à la capitale.
Vous travaillez ici ?
Non, j'ai gardé mon studio à l'extérieur de Paris. Je travaille ici bien sûr parce que maintenant l'avantage de la technologie c'est qu'on peut être nomade. Moi quand je commençais la musique, ma mère me disait « Mais pourquoi t'as pas choisi le violon ? Parce que c'est quand même plus facile à transporter. » Et aujourd'hui, elle est plus là, mais j'ai envie de lui dire qu'avec un laptop, c'est plus petit qu'un violon et on peut imaginer, composer, produire, même distribuer toute la musique qu'on veut, où que ce soit sur la planète. Donc effectivement, je peux travailler aussi chez moi et aussi quand je voyage un peu partout. Donc le nomadisme, qui est un des thèmes du livre finalement, n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.
Votre premier instrument, vous en parlez, c'était une guitare, une Clira, c'est ça?
Oui, enfin, c'était pas exactement le premier instrument, parce que le premier instrument, ça a été le piano, mais le premier instrument, qui était quand même celui avec lequel j'ai développé un rapport affectif, c'est effectivement cette Clira, cette guitare de jazz. Pas une grande marque, mais une très bonne guitare.
Vous l'avez encore? Vous êtes du genre à collectionner, du coup, vos instruments?
Je collectionne, mais comme je l'indique dans le livre, en fait, quand j'ai décidé de virer ma cutie, d'aller vers la musique électronique, j'ai vendu à cette époque, pour me payer un synthétiseur qui était difficile à trouver à l'époque et qu'on trouvait qu'à Londres, et donc j'ai vendu cette guitare, mon ampli et un train électrique de mon enfance que m'avait fabriqué mon grand-père, un train électrique Märklin, de la marque allemande bien connue pour les collectionneurs de trains électriques. Donc il y avait une certaine valeur, donc j'ai vendu tout ça, et avec cet argent je suis parti à Londres m'acheter ce premier synthétiseur.
Je vous propose tout de suite une mise en bouche sonore, si on peut dire, sous forme de Madeleine de Proust musicale, une balade dans la première partie de votre histoire, Jean-Michel Jarre.
Gilles Margaritis est heureux de vous accueillir dans son cirque et vous souhaite une agréable piste aux étoiles.
Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire de l'éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
Mendes France impose en effet un verre de lait dans les écoles pour lutter contre la dénutrition, mais aussi contre l'alcoolisme.
Et si nous nous trouvons en ce moment au bord de l'Indre, à Montgivray, c'est parce qu'il faut bien commencer par le commencement, c'est-à-dire la fabrication des platines, assurée ici par une presse de 300 tonnes. Platines et transformateurs achevés prendront par la route la direction de Lyon. Contrairement au tourne-disque qui a besoin d'un complément pour se faire entendre, l'électrophone muni d'un amplificateur et d'un haut-parleur se suffit à lui-même.
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ma décision est prise. Soudain, brûlant la politesse à mon escorte, je me volatilise et, me perdant dans la foule, je cours vers l'estrade du sergent.
George. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Il existe à Paris, rue de l'Université, un immeuble de la radiodiffusion télévision française avec des studios dans lesquels des hommes travaillent sur d'étranges instruments.
Oui,
c'est bien qu'en entrant, on a un peu l'impression de s'aventurer dans l'antre d'un sorcier moderne, mais un sorcier de la science. Eh bien, ce sorcier, c'est celui qui est en train de vous présenter l'affiche en ce moment, c'est Pierre Schaeffer.
Le directeur. Un verre volant, droit, je signale. C'est notre ami Patrick qui nous a tiré. Maxime.
Oui, il nous faut aborder maintenant le chapitre des manifestations. Depuis 24 heures, en effet, notre vie a été marquée par un certain nombre et même beaucoup de manifestations, tant à Paris qu'en province. Et ces manifestations se sont faites, la plupart du temps, suivant des appels d'idéologies différentes, soit à l'appel des syndicats, soit à l'appel des étudiants, soit à l'appel des gaullistes.
C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok.
I had 2 summers ago a blind boy here, and I started thinking a lot about blindness, and I'm looking at the cameraman, I'm looking at other people in the room, they blink their eyes. What do you see in that blink? Blind projection.
Beaucoup de choses de votre passé, Jean-Michel Jarre.
Bah, j'ai rien à ajouter parce que vous avez fait un travail formidable. Vous avez mis le livre en son.
Bah oui.
Je suis très jaloux parce que j'avais pas pensé à cette idée qui est absolument géniale et c'est génialement fait. Bravo.
C'est
vraiment formidable.
Qui est là,
le montage est magnifique. Hein. C'est une vraie création.
On va l'expliquer un peu.
Très touché.
Ça permet de balayer un peu quelques années de votre vie, la piste aux étoiles, souvenirs d'enfance, le lait que vous buviez de Madame France, si on peut dire, à l'école, musique des Shadows que vous repreniez avec votre premier groupe, un de vos premiers, Mystère Fort.
Exactement.
C'est ça. On a entendu les Dustbins, autre groupe dans lequel vous jouiez guitare, orgue et flûte.
C'est ça. Vous avez fait des recherches, qu'il fallait les trouver, ceux-là.
On a évoqué votre grand-père avec le Tepaz, qu'il a conçu. Georgia de Red Charles, votre premier 45 tours. Gérard Philippe raconte Enfant la Tulipe sur la musique de votre père, Maurice Jarre. La voix de Pierre Schaeffer, compositeur fondateur du GRM. À ses côtés, j'ai appris les fondamentaux de la musique électroacoustique, racontez-vous. Un peu de Jimi Hendrix, Purple Haze. Il suffit d'écouter ce morceau pour retrouver instantanément le goût de l'anxiété, celle de l'adolescence. Ce temps de l'entre-deux, plus un enfant, pas encore un adulte. On a évoqué mai 68, dont vous dites c'était le bordel et nous l'avions immédiatement compris, un moment formidable, incroyable pour les étudiants. Soudain, tout était possible. Et puis la musique des Shadok, qui avait été composée par le groupe de recherche musicale auquel vous avez collaboré. The Cat, Jimmy Smith, souvenir d'une balade, de plusieurs balades, j'imagine, dans la Jaguar de votre père, prêtée par sa femme Dani Saval. On a évoqué Bob Wilson, dont vous avez dit c'était un artiste qui réalisait tout ce à quoi j'aspirais sans pour autant parvenir à l'exprimer. Et puis votre première composition pour le cinéma, c'était en 73, en 73, Les Granges brûlées avec Signoret et Delon. Votre grand-père, vous en parlez beaucoup dans le livre, il était ingénieur, la Lyonnaise des Eaux, inventeur, il avait travaillé à Radio Lyon, il avait fabriqué une des premières consoles, vous racontez. Vous aviez un lien très fort avec lui. Est-ce que la curiosité que vous avez, l'inventivité peut-être, elle vient un petit peu de lui, vous a transmis ça, ce goût pour découvrir
Oui, je pense que ça a été définitivement d'abord la première figure paternelle, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, et ça a été, comme pour tous les enfants de parents qui divorcent, c'est toujours un moment pénible, mais ce qui a eu de particulier dans ma vie, c'est qu'en fait, les ponts étaient vraiment coupés à partir de ce moment-là et je n'aurais jamais vraiment de relation avec mon père toute notre vie. C'est mieux d'avoir un conflit avec le père parce qu'on a quelque chose ou quelqu'un contre lequel se rebeller. Mais la béance, l'absence, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour un enfant et pour un adulte d'ailleurs. Et donc la figure paternelle, ça a été mon grand-père, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un grand-père comme ça, qui était, comme vous l'aviez très bien expliqué et très bien illustré aussi sur le plan sonore, c'est le fait que c'était à la fois, il avait les deux cerveaux assez bien équilibrés. C'est à la fois un musicien, joueur de hautbois, en même temps un ingénieur, il avait fait centrale. Et puis, comme vous le disiez, il a inventé effectivement toutes sortes de choses dans son atelier, qui était pour moi une caverne d'Ali Baba, et je venais là comme un petit espion. Et mon grand-père parlait pas beaucoup, mais il m'a beaucoup montré, en fait. Mmh. Et j'ai gardé de cette époque, justement, cette idée que l'apprentissage arrive souvent par le fait de regarder. Et je pense que c'est vrai que j'ai absorbé une forme de goût pour la technologie ou en fait, ce goût du bricolage, mais créatif, c'est-à-dire de faire un pont entre la création et puis le bricolage, puisque finalement la musique électronique, plus qu'une autre peut-être, c'est aussi une musique faite de bricolage.
Il y a du technique et de l'artistique.
Exactement.
Un jour, vous racontez aussi que pour Noël, il vous offre un magnétophone. Alors là, c'est formidable. Vous mettez à enregistrer plein de choses, mais pas uniquement de la musique, bien sûr, des sons, des voix. Et du coup, est-ce que vous pensez que tous les sons peuvent donner lieu à de la création sonore? Est-ce qu'un son, quel qu'il soit, c'est déjà un peu de la musique? Ou ça peut le devenir?
Alors, en fait, quand mon grand-père m'offre ce magnétophone, Grundig, le magnétophone allemand, pour moi c'est un objet absolument magique, et je pense pas du tout à enregistrer de la musique nécessairement, mais à enregistrer tout simplement, à me servir du micro et d'enregistrer. Et donc j'enregistre toutes sortes de bruits, notamment les bruits de la rue, où je fais descendre le micro par le balcon de mes grands-parents, et j'enregistre les bruits de la rue, etc. Et puis sans savoir qu'un jour ce serait une manière de faire de la musique. Et un jour, je passe la bande à l'envers par erreur, et ça me fait presque peur. J'ai l'impression qu'il y a des aliens qui me parlent, qui sont descendus d'une autre planète. Et donc, à partir de là, je commence à modifier et à trafiquer le son. Et un peu plus tard, quand justement je commence aussi à jouer de la guitare dans des groupes, je vais très souvent utiliser le magnétophone pour transformer les sons de manière très très intuitive, mais sans nécessairement réaliser que le fait de pouvoir, justement, comme vous le dites, approcher la musique à travers le son, soit quelque chose de prioritaire dans ma vie, bien que je le fasse instinctivement. Et c'est plus tard, quand je travaille chez Pierre Schaeffer, au groupe de recherche musicale, que je découvre justement un monde et quelqu'un, notamment lui, qui est mon mentor et professeur absolu, et qui est en fait le vrai père ou grand-père des DJ, en fait, de toute la musique comme elle se fait aujourd'hui. Il est le premier à considérer réellement que la musique n'est pas faite seulement de notes fondées sur le solfège, mais la musique est faite de sons, et qu'en fait la différence entre le bruit et la musique, c'est la main du musicien. Et on peut enregistrer le son de la pluie, le son de la rue, et puis en faire de la musique. Et d'ailleurs, l'ingénieur du son qui est avec nous, qui a fait ce merveilleux montage que j'ai entendu, c'est déjà une création sonore, c'est de la musique. Si ce qu'on vient de passer, on l'écoute, on l'enregistre et on l'écoute tous les jours pendant 15 jours, par exemple, eh bien, d'un montage sonore, ça va devenir une musique, parce qu'on va aussi développer un rapport affectif avec
la structure,
qui arrive. Exactement. Ouais. C'est ça qui m'a évidemment beaucoup intéressé.
On va écouter maintenant la voix de Oum Kalsoum, dont vous dites c'est l'un des souvenirs les plus marquants de mon enfance.
Oui, en fait, Oum Kalsoum, ma mère, je me souviens, je devais avoir 12, 13 ans, quelque chose comme ça, et elle me dit, tiens, on va aller voir un concert de quelqu'un, tu vas voir, c'est intéressant, c'est différent de ce que tu connais. Et donc, on est allé voir ce concert. Et en fait, dans ce concert, elle a chanté trois chansons. Les trois chansons duraient 20 minutes ou 25 minutes. Et je suis ressorti de là complètement à la fois hébété et en même temps absolument émerveillé. Et j'ai eu cette phrase en sortant du... Là, j'ai dit à ma mère, je veux me marier avec elle. C'était plus pour le son, d'ailleurs, je pense.
Oum Kalsoum, Namia Malaki.
Oh.
Jean-Michel Jarre, vous racontez une anecdote à un moment du temps où votre mère était enceinte de vous. Votre père travaillait alors avec Pierre Boulez pour la compagnie de théâtre Renaud Barreau. Et un jour, le compositeur John Cage lui rend visite.
Oui, et alors je ne peux que raconter cette histoire, pas oui dire au sens propre, au sens figuré.
Il paraît que les enfants le fait.
Voilà, donc c'est pour ça que je dis par oui dire au sens propre, au sens figuré, parce que j'étais encore dans le ventre de ma mère, et donc John Cage qui passait par là, ma mère était là à la répétition, et il pose sa main sur le ventre de ma mère et me dit, et il lui dit, oh mais il y a un musicien là-dedans. Donc je sais pas si ça a eu une influence. Mais
c'était
en tout
qu'une
cas,
plaisanterie ou c'était un peu sérieux?
Ben j'en sais rien. Je pense que c'était un peu des deux, j'imagine.
Vous croyez à la destinée?
Oui, je pense que c'est compliqué. Je pense que je pense qu'il y a 50% de destinée, puis 50% aussi de savoir attraper les trains qui passent. Ce qui fait partie de la destinée, parce que ça fait partie de votre caractère, ça fait partie
de l'influence qu'on a sur sa destinée.
Donc oui. Ouais. Il est certain que d'avoir la chance de naître en Suisse ou en France, plutôt que de naître en Corée du Nord, ça fait partie d'un destin positif.
Et du coup, votre petite enfance, vous croisez Jeanne Moreau, Agnès Varda, le Mime Marceau, entre autres. Ça a contribué aussi, certainement.
Oui, quand les auditeurs nous écoutent, on pourrait avoir l'impression que j'ai eu une enfance entourée d'artistes dorés, etc. Ça, c'est une période très précise avant de mes 3 ans, 4 ans. Ouais. Et quand mon père quitte la maison, je vais vivre d'une manière extrêmement modeste. C'était d'ailleurs le cas avant, mais dans la banlieue sud de Paris, dans un petit appartement de 40 mètres carrés avec ma mère, et totalement coupé de ce milieu qui était un milieu que j'ai réalisé ce qu'était ce milieu bien plus tard, mais à l'époque évidemment quand on est gosse on se rend pas du tout compte de ce qu'était le TNP à cette époque, puisque vous faites référence au Théâtre National Populaire qu'a créé Jean Villard, et mon père a été le compositeur attitré du Théâtre National Populaire, qui était absolument révolutionnaire à l'époque, puisque c'était la première fois que le théâtre, comme son nom l'indiquait, et avait pour vocation d'être un théâtre populaire avec des places pas chères, avec des grandes salles. Il a fondé en même temps aussi le Festival d'Avignon. Mon père était cofondateur d'ailleurs avec Jean Villard du Festival d'Avignon. Et c'est dans ce contexte-là que les gens qui n'étaient pas encore très connus à cette époque-là, qui étaient, enfin Jeanne Moreau l'était, mais les autres étaient des débutants. Philippe Noiret était un hallebardier avec Jean Rochefort. Il ne parlait même pas. Il faisait de la figuration. Donc c'était toute une jeune troupe de théâtre avec des gens qui sont devenus de très très grands acteurs plus tard. Et effectivement, j'ai ma prime enfance à baigner là-dedans, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs.
Vous écrivez sur votre mère de cette héroïne, votre maman fut résistante. J'ai hérité, je l'espère, un peu de son humour, de sa débrouillardise et de sa vigilance, réfractaire aux abus de pouvoir. Un peu plus loin, vous écrivez, ancienne déportée, revenue de l'au-delà des mots, de l'au-delà de tout, ses convictions totalement intactes. La guerre n'a eu ni sa peau, ni sa tolérance, ni moins encore son humour. Elle assurait, vous dites, votre quotidien, mais en plus, elle tenait à vous rendre heureux, à créer du bonheur autour de vous. On a l'impression que c'était aussi une héroïne du quotidien, réellement.
Oui, il y a la solitude ou la solitude d'une femme délaissée, c'est pas la même chose que la solitude d'une héroïne. Et je l'ai toujours vue comme ça. Et on s'est retrouvés, puisque j'étais fils unique, en fait, tous les deux, et très vite, finalement, il y a une différence entre un couple et un duo, ce que j'explique un peu dans le livre. C'est-à-dire qu'on est devenu un duo quand une mère et son enfant vivent non pas en vase clos, mais c'est finalement le seul noyau de la famille. Finalement, on compte l'un sur l'autre et on s'inquiète l'un sur l'autre. Je raconte dans le livre qu'en fait, ma vie d'enfant, la journée, c'était une vie d'enfant normale en allant à l'école, en ayant des copains, et le soir, dans mon lit. Je grandissais beaucoup plus vite, c'est-à-dire que j'avais cette inquiétude tenace, je dirais, de me dire s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, si moi il m'arrive quelque chose, elle va s'inquiéter. Donc très vite, j'ai développé en fait une sorte de sens, non pas de responsabilité, mais de lucidité sur le fait qu'il fallait que j'aide ma mère qui avait pas beaucoup de moyens. Et donc très très vite, je me suis débrouillé pour essayer de gagner de l'argent je faisais beaucoup de peinture, même à un très jeune âge, et je me suis inventé un frère imaginaire, et j'allais vendre les peintures de mon frère, en fait, c'était moi qui les faisais, parce que j'aurais pas été crédible. Et donc, finalement, j'ai réussi à en vendre quelques-unes, ce qui permettait, ça amusait ma mère, qui voulait pas du tout de cet argent, mais finalement, bon, je me battais pour qu'elle le prenne, et c'est une manière modeste de pouvoir contribuer au ménage d'une certaine manière que nous formions.
Vous avez beaucoup collaboré avec d'autres artistes tout au long de votre carrière. Retour en son tout de suite sur quelques-unes de ces collaborations.
Jean-Michel Jarre has definitely played a huge role in shaping electronic music in the same way that I would see someone like Wendy Carlos or George Moroder.
Sans se comprendre, jour après jour, sans rien s'apprendre, sans autre amour qu'amour de dépendance, que faux amour.
Se marie extrêmement bien.
Actually, we have
have probably also the same kind of approach of sound, the French impressionist approach of electronic music, compared to the more robotic or colder approach that the German sound used to have. They have succeeded in a very special way to create a kind of crossover between different periods, between the sound of the 60s, the sound of the 70s, and their sound.
Quoi rajouter à ça? Là, c'est vrai, je peux dire vraiment en connaisseur que c'est un travail génial que fait notre ami Alexandre. Vraiment, c'est super d'entendre son livre comme ça. C'est la première interview que je donne sur ce livre et ça, c'est une sorte de choc, alors vraiment un choc auditif d'entendre son livre. C'est vraiment un moment vraiment merci d'avoir. Fait tout ça pour moi au fond, et pour les auditeurs, mais d'abord pour moi.
On a entendu donc quelques-unes de vos collaborations avec la chanteuse Peaches, par exemple Patrick Juvet, Où sont les femmes, Françoise Hardy, Que vas-tu faire, Cyndi Lauper, Massive Attack, Moby, Christophe pour les mots bleus, Bachung aussi, R. On aurait pu en rajouter beaucoup, Natasha Atlas, Pete Townshend, John Carpenter, Hans Zimmer, entre autres. Vous avez écrit les paroles des mots bleus, c'est quoi l'origine de ces paroles, l'histoire de cette chanson?
En fait, j'étais sous contrat chez un éditeur et maison de disques indépendant qui s'appelait Francis Dreyfus, et Christophe l'était aussi, et donc je faisais pas mal de choses différentes, de musique de film, je commençais dans le métier et de la musique, et donc Christophe sortait de toute cette période variété en fait d'Aline, les marionnettes, etc. Dreyfus produit un album et me dit tiens viens en studio, je pense que ça serait bien qu'on essaie de réfléchir sur justement le concept de l'album. Il savait que moi ce qui m'intéressait beaucoup à cette époque-là, c'était pas tellement les albums qui étaient des albums qui étaient une succession de chansons, mais plutôt des concept albums qui se faisaient pas trop en France mais qui étaient très populaires en Angleterre avec des gens comme Supertramp, King Crimson, Procol Harum, Pink Floyd évidemment, bien sûr. Et donc du coup on est parti en studio, on s'est enfermé au studio Ferber avec cette idée où en fait moi je faisais un petit peu de tout, et puis il s'est passé quoi, au bout d'un moment il fallait trouver des textes pour les chansons, et que c'était compliqué de trouver des paroliers qui en fait, les paroliers professionnels, c'était des gens qui en fait finalement auraient approché ça chanson par chanson, et c'était pas du tout l'idée. Et donc je m'y suis collé, aimant bien les mots et ayant pas mal écrit déjà, je m'y suis collé avec l'idée de partir du son et de partir de la phonétique des mots plutôt que uniquement de raconter des histoires. Ce qui d'ailleurs m'a valu à la suite des succès des albums deux lettres contraires, une lettre de Pierre Delanoë me disant que c'est de la merde de faire des chansons où il n'y a pas d'histoire. Donc voilà. Et Gainsbourg qui m'a envoyé une lettre, un très joli message en me disant bienvenue au club.
Dans votre autobiographie Mélancolique Rodéo qui vient de sortir, vous racontez nombreuses de vos rencontres, dont l'une avec le pape Jean-Paul II, qui vous parle de votre harpe laser en vous disant c'est extraordinaire, elle touche les nuages, il y a quelque chose de sacré dans votre musique. Vous entretenez quel rapport, vous, avec la religion, avec la foi, avec la spiritualité?
Je dirais que je crois de plus en plus à quelque chose de moins en moins précis.
Donc vous approchez de la vérité.
Peut-être.
Mais c'est pas clair.
C'est pas clair tout ça. Et en fait, c'est amusant parce que moi, je viens de Lyon et mes parents et les familles de mon père et de ma mère sont lyonnais, et les deux. Et à Lyon, Lyon est une ville double. C'est la ville des deux fleuves, c'est la ville des deux collines, la colline qui prie, la colline qui travaille, la Fourvière et la Croix-Rousse. Et mes familles de ma mère, pas comme Roméo et Juliette, mais avec une fin pas aussi dramatique, mais en fait, deux mondes différents. Un monde qui est le monde de Fourvière, de mes parents, qui est assez, de mes parents, de ma famille paternelle, qui est assez catholique, qui est tout à fait catholique, et l'autre qui était en fait bizarrement très catholique, parce que les parents de ma mère ont été élevés respectivement chez les enfants de Marie et chez les jésuites, et se sont mariés en 1910 civilement. Donc ce qui était quand même un acte, c'était un statement comme on dit en anglais. Et ma mère a toujours été libre penseur, ce qu'elle disait, ce qui était un euphémisme en ce qui la concerne. Elle avait plutôt tendance à éventuellement changer de trottoir quand elle passait devant une église. C'était presque ça. Bon, j'exagère un peu, mais elle m'entend et elle me pardonne les exagérations. Mais en fait, elle avait cette tolérance, mais qui fait que j'ai été élevé de manière totalement libre, en me disant tu choisiras ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Donc du coup, j'ai eu un rapport assez lâche avec la religion. Mais comme nous le savons, la spiritualité n'est pas nécessairement liée au dogme. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, je pense que la spiritualité se porte jamais aussi bien que quand elle n'est pas trop proche d'un dogme quel qu'il soit. Ma mère pensait toujours que les religions étaient la grande cause à travers l'époque, les temps des guerres, des larmes et du sang. Et donc, je lui disais calme-toi, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Donc c'est vrai. Donc j'ai donc dans le livre un chapitre moi qui m'est assez cher. Je sais pas si on en parlera, mais qui s'appelle Le poids des anges et qui justement dans le monde de l'électronique où j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs, de travailler avec des scientifiques, avec les gens de l'espace qui sont plutôt des rationalistes, les astrophysiciens, les scientifiques de manière générale sont plutôt des rationnels. Et dans la création, il y a une part de rationalité quand on travaille, et c'est par rapport à la technique qu'on utilise, mais en même temps, il y a évidemment une grande part d'irrationnel. Le mystère de l'inspiration, la manière dont les idées arrivent, comment tout ça fonctionne. Et donc forcément, il y a dans l'espace, pas seulement des éléments chimiques, mais en même temps aussi des anges.
On va se retrouver en 1984, si vous le voulez bien, avec votre album Zoulouk et le titre Ethnicolor 2.
Jean-Michel Jarre dans la conversation. Dans la conversation.
Jean-Michel Jarre, on continue cette conversation. On est chez vous, dans votre appartement parisien. Si je vous demandais quel était l'objet le plus important ici dans ce lieu,
l'objet le plus important.
Regardez autour de vous.
Dans ce lieu, je pense que ça doit être le Tepaz qui est de mon grand-père, qui est là-bas dans, sur une étagère, qui est l'électrophone dont on a parlé tout à l'heure.
D'accord.
Et qui est
dans sa boîte,
oui, exactement.
C'est quelle époque?
C'est les années 60, enfin, deux années, oui, c'est ça, les années 60.
Et il fonctionne encore?
Oui, il fonctionne toujours.
Aujourd'hui, avec la MAO, la musique assistée par ordinateur, est-ce que vous pensez qu'on peut être un bon compositeur sans être forcément un grand instrumentiste?
La composition, pendant des siècles, ça s'est fait avec une feuille de papier et un crayon. C'est finalement une manifestation très, très cérébrale, une activité très cérébrale. Pendant des siècles, on a écrit de la musique, enfin pendant des siècles.
Sans la jouer.
Oui, sans la jouer.
Ils écrivaient de la musique.
Il y a des gens qui n'ont jamais entendu leur musique. Il y a des gens qui n'avaient pas, parce que pour écouter sa musique, il fallait trouver un éditeur qui investisse pour éditer la partition, ça coûtait cher, et ensuite de louer un orchestre qui coûtait encore plus cher. Donc il y a des gens, des contemporains de Mozart, beaucoup de bons compositeurs n'ont jamais entendu leur musique, qui n'a jamais été jouée. Ça a évidemment complètement évolué. Et en fait, on ne veut pas faire une émission de musicologie, mais très brièvement, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que nous, avec l'arrogance occidentale qui nous est propre, on a tendance à penser que la seule musique pendant des siècles, la seule musique savante qui se doit, c'est de la musique écrite. Mais finalement, on s'aperçoit que la musique écrite existe simplement en Occident depuis en gros le 15e siècle jusqu'au 20e siècle. Mais que dans toutes les autres traditions chinoises, indiennes, africaines, la musique est une musique orale, de tradition orale, n'est pas une musique écrite. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, en gros, l'avènement de la musique et le développement de la musique électronique, en fait, on s'aperçoit que la musique aussi rejoint cette musique de tradition orale qui peut s'émanciper d'une manière qui est évidemment indiscutablement positive, qui a généré des chefs-d'œuvre, de la musique écrite. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités, et ces possibilités-là, et on le voit avec les DJ, on le voit avec la musique aujourd'hui qui est faite de sound design, qui est une musique qui est beaucoup plus organique et qui permet qui est au fond moins cérébrale. Le terme de musique concrète, ça s'adapte parfaitement à la musique électronique, électroacoustique. D'ailleurs, la peinture abstraite devrait s'appeler la peinture concrète. Quand on voit des gens comme Soulages ou Dubuffet qui travaillent avec de la terre ou qui travaille avec de la matière, c'est toujours la même chose à la radio, on fait les gestes à la main qui n'intéressent que soi-même, parce que personne ne voit. Mais enfin voilà, j'étais en train simplement de faire le geste de pétrir la terre ou le pain avec mes mains, et en fait c'est ça, et c'est ça qui a beaucoup changé. Donc c'est ni plus ni mieux ni moins bien, mais effectivement aujourd'hui on peut s'émanciper du solfège traditionnel et faire de la musique qui soit tout à fait intéressante et tout à fait riche.
Vous écrivez à un moment, le futur ne renie pas le passé, ni n'oublie ses racines, il ne sort pas de nulle part, la mixité salutaire demeure, et au milieu de tout ça, oui, les robots trouvent leur place, plus on est, plus on crée, ils sont des complices, ils seront un jour capables d'émotions, j'en suis convaincu, lorsque l'on parviendra à analyser à quelle connexion électrique, à quel phénomène biochimique extrêmement complexe correspond exactement dans notre cerveau l'éveil de sentiments et de sensations, alors des algorithmes pourront les reproduire. L'intelligence artificielle est une muse d'avenir. Est-ce qu'à terme, vous pensez que nous allons devenir, nous les humains, les muses des intelligences artificielles?
Ça, c'est une très belle image. J'étais pas allé jusque-là, mais cette possibilité me plaît beaucoup. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que on est toujours nous les humains paniqués par le futur. Sans doute au fond parce que on sait d'une certaine manière à un moment donné, on n'en fera pas partie. Et donc on a forcément une vision sombre ou dystopique du futur. Et donc il faut jamais oublier que au début du siècle, il y avait un journal anglais qui titrait en une d'une édition que au-delà de 60 km/h, il fallait faire attention parce que dans un train à vapeur, votre cœur pouvait exploser. Donc il y a toujours ce catastrophisme qui est lié à la vision humaine des choses. Et l'intelligence artificielle, c'est Enfin, la technologie est neutre. Ça dépend de ce, c'est sûr, ce qu'on en fait. C'est la fission de l'atome. C'est vrai que ça, elle a généré, elle a créé la bombe atomique, mais en même temps, fait faire des progrès fantastiques dans la biologie, dans les sciences, enfin, dans tous les domaines qu'on connaît. Donc, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'arrogance des gens qui ont, pendant des siècles, ont pensé que la Terre était plate, de génération après génération, et je pense que l'intelligence artificielle va forcément nous permettre des choses qui sont même inconcevables aujourd'hui, mais aussi qui pourront aussi générer des dangers. Il faudra y faire attention.
Vous écrivez un moment, je reste un vrai solitaire, seul à triturer des boutons, des engins, des ondes, faire du son avec des formes, oublieux du reste de la vie, à la recherche obsessionnelle d'accords, d'espaces, d'émotions inédites. Il y a un enfant, un côté un peu enfant qui joue dans son coin, qui se crée son monde, qui est à la recherche toujours du beau. Est-ce que ça a l'air très ludique? Est-ce que ça l'est autant que ça donne l'impression que ça l'est, cette démarche, cette recherche?
Alors, je pense que les artistes sont tous des sales gosses quand même. C'est-à-dire qu'on a, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on aime bien aussi un peu, sinon casser les jouets, les détourner aussi. C'est ça qui fait le style. Mmh. C'est les accidents. C'est le fait de ne pas suivre les règles. Donc ça, c'est un truc qui est purement enfantin, ou enfin qui plutôt qu'enfantin, qui est lié au monde de l'enfance. Maintenant, quand ça devient une non pas une profession, mais une activité d'adulte, je pense que ça devient une addiction. C'est plus seulement un jeu.
Vous vous sentez dépendant?
Ah oui, moi je pense que oui, c'est une addiction, c'est quelque chose qui bouffe la vie en fait, d'une certaine manière. Parce que je me dis, je pourrais plus faire d'autres choses, même encore aujourd'hui, je travaille beaucoup plus que je ne devrais le faire d'une manière raisonnable. C'est-à-dire que j'ai passé, comme je dis dans le livre, probablement beaucoup plus de temps avec des machines qu'avec des êtres humains. J'ai passé beaucoup de temps avec des êtres humains, et donc j'ai développé avec eux, comme je le dis, une sorte de paralangage, ou de un peu comme les gens qui ont passé leur vie avec les éléphants ou avec les dauphins, donc à trouver un langage commun, à les apprivoiser. Mais c'est un privilège énorme. Je me sens extrêmement privilégié aujourd'hui, d'ailleurs plus que jamais, de pouvoir continuer à faire ce que j'aime et de pouvoir en vivre, de pouvoir aujourd'hui être à votre micro et parler justement de ce trajet qui est un trajet qui est totalement, quand je le vois, totalement extraordinaire au sens étymologique du terme. C'est pas du tout arrogant, prétentieux ce que je dis, mais quand je repense à ce trajet jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui se passe aussi en ce moment, et les projets que j'ai pour le futur, puis on disait récemment avec la mère de mes enfants, avec Charlotte Rampling, qui est la mère de mes enfants, qu'on n'a jamais travaillé autant de notre vie qu'en ce moment. On n'a jamais autant de projets qu'en ce moment. Et je pense que c'est quand le corps vous soutient et quand on a la santé, comme on dit. Mais c'est pas seulement une boutade, c'est évidemment la réalité. Il n'y a pas d'âge de retraite. Pourquoi je disais que c'est une addiction, et je reviens donc au début de la question. Cette idée de frustration et d'espoir, la frustration qu'on n'a pas fait assez bien et que la prochaine fois ça sera mieux. Et donc on a cette obsession du morceau idéal, ou je suppose du roman idéal, du film idéal, qu'on ne fera sans doute jamais, et on essaie de s'en rapprocher toute sa vie. C'est ça qui vous fait continuer.
Merci beaucoup pour cette première partie de conversation, Jean-Michel Jarre.
Merci à vous.
Je rappelle votre autobiographie qui vient de sortir, ça s'appelle Mélancolique Rodéo, chez Robert Laffont. Et je vous propose de clore cette conversation en musique avec un des morceaux de la playlist de votre livre. C'est Samuel Barber avec son célèbre Adagio pour cordes, opus 11. Vous venez d'écouter la première partie de la conversation aujourd'hui avec Jean-Michel Jarre. Merci à Alexandre Lemierre pour la réalisation. Pour écouter ce programme, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la suite et fin de cette rencontre avec Jean-Michel Jarre. D'ici là, très bel après-midi à l'écoute des programmes d'Espace 2.
Le jeudi 10 octobre, Espace 2 vous fait revivre deux moments forts de la 9e édition du Festival des Athénéennes de Genève. Laissez-vous emporter par le génie et la voix si juste de Gérard Depardieu, accompagné des musiciens du trio Jasmin Toccata, dans une lecture bouleversante des Confessions de Saint-Augustin.
Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi.
Puis découvrez l'hommage au peintre Rothko de Morton Feldman, interprété par l'ensemble